Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Monde aujourd'hui de ce mercredi 19 juin 2024. Il est 7h00 en temps universel. Au menu, Tchad, incendie meurtrier dans un dépôt de munitions à N'Djamena. Le chef de l'État exprime ses condoléances et ordonne une enquête. Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye en France pour le forum de l'innovation vaccinale. Kenya, le gouvernement cède à la pression populaire et retire les nouvelles taxes controversées. États-Unis, record de température, le nord-est du pays en alerte. Minute Éco, l'intelligence artificielle propulse Nvidia qui occupe la première place en termes de capitalisation boursière au monde. Sport, Euro 2024, début de la deuxième journée avec le choc Espagne-Italie. Dans notre section magazine, nous nous dirigerons vers le Gabon où l'opération de nettoyage de Libreville bat son plein pour remettre de l'ordre. En attendant, le journal. L'incendie qui ravage un dépôt militaire de munitions dans la capitale tchadienne, N'Djamena, dans la nuit de mardi à ce mercredi, a fait des morts et des blessés, a annoncé le président Mahamat Idriss Déby Itno sur sa page Facebook. Un incendie dans un dépôt de munitions a provoqué des dégâts humains et matériels. Paix aux âmes des victimes, sincères condoléances aux familles éplorées et prompt rétablissement aux blessés, a-t-il écrit. Il a ajouté « Une enquête sera ouverte pour déterminer les causes et situer les responsabilités ». Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye se rend en France aujourd'hui pour sa première visite officielle en dehors du continent africain. Il aura un entretien avec son homologue Emmanuel Macron. Le point avec Dili Diko.
Le président Bassirou Diomaye Faye va prendre part au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale à l'invitation de l'Alliance du vaccin et de l'Union africaine. La rencontre avec plusieurs autres chefs d'État africains est prévue demain jeudi. Le chef de l'État sénégalais sera convié à un déjeuner par son homologue français. La France dit être le premier bailleur d'aide publique au développement au Sénégal. Monsieur Faye, 44 ans, a remporté la présidentielle de mars avec un discours souverainiste et la promesse de rupture avec l'ancien système. Il a affirmé son vœu de partenariat bénéfique. Son ancien mentor et premier ministre Ousmane Sonko s'est souvent signalé par ses propos contre l'emprise de la France. Monsieur Sonko a estimé aussi que la présence de bases étrangères au Sénégal est incompatible avec la souveraineté nationale. La France a commencé à réduire sa présence et ne devrait conserver qu'une centaine de soldats au Sénégal contre 350 actuellement. L'avenir du partenariat militaire figure parmi les sujets communs à Paris et Dakar avec la sécurité ou la réforme du franc CFA.
Le Soudan et les Émirats arabes unis se sont affrontés hier au Conseil de sécurité de l'ONU à la suite d'accusations du gouvernement soudanais alignées sur l'armée, selon lesquelles les Émirats arabes unis fourniraient des armes et un soutien aux rebelles des forces de sécurité rapide dans le conflit qui dure depuis 14 mois dans le pays. Les observateurs des sanctions de l'ONU ont qualifié de crédibles les accusations selon lesquelles Abu Dhabi aurait fourni un soutien militaire au FSR, ce que nient les Émirats arabes unis. Sans nommer aucun pays, le Conseil de sécurité a adopté la semaine dernière une résolution exhortant les pays à s'abstenir de toute ingérence extérieure visant à fomenter un conflit et l'instabilité. En Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa doit prêter serment en tant que président lors d'une cérémonie à Pretoria aujourd'hui. Son parti, l'ANC, est parvenu à un accord pour former un gouvernement de coalition. M. Ramaphosa, 71 ans, prêtera serment à 11h locale au siège du gouvernement devant le président de la Cour constitutionnelle, plus haute juridiction du pays, les membres du Parlement ainsi que les rois traditionnels des différentes ethnies du pays. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, la plupart des pays voisins, sont attendus ainsi que les représentants des partis politiques, des syndicats, de la société civile et les chefs religieux qui ont également été conviés. Au Kenya, la plupart des projets contestaient de nouvelles taxes, dont une TVA sur le pain et une taxe sur les voitures des particuliers, ont été retirés du projet budget 2024-2025 avant son examen au Parlement. Le point avec John Lindon.
Le projet de loi des finances a été amendé pour supprimer la TVA de 16% sur le pain, sur le transport du sucre, sur les services financiers, sur les opérations de change, ainsi que la taxe sur les véhicules à moteur de 2,5%, a annoncé dans un communiqué la présidence kényane à l'issue d'une réunion des parlementaires de la majorité. Auparavant, plusieurs centaines de personnes ont manifesté près du Parlement pour demander le retrait des nouvelles taxes inscrites dans le projet du budget qui doit être voté au plus tard le 30 juin. Le gouvernement recule face à la pression de la rue. Grâce à la participation de la population, le peuple kényan a eu son mot à dire, c'est féliciter le président William Ruto. Plusieurs autres taxes sur les paiements mobiles ou encore sur l'huile végétale ont également été supprimées du projet de budget.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des centaines de visiteurs sont morts lors du pèlerinage musulman annuel à la Mecque dans une chaleur torride, selon la presse et les ministères des Affaires étrangères. Au moins 550 personnes sont mortes pendant le Hajj, ont déclaré hier des diplomates. 323 des victimes étaient des Égyptiens, dont la plupart ont péri à cause des maladies liées à la chaleur, rapporte l'AFP, citant deux diplomates arabes. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement ces chiffres. 35 citoyens tunisiens sont morts pendant le Hajj, a indiqué hier l'agence de presse tunisienne Tunis Afrique Presse. Le pèlerinage a commencé vendredi. En Haïti, le nombre de déplacés internes a augmenté de 60% depuis mars en raison de l'intensification de la violence des gangs. Ce nombre atteint près de 600 000 personnes selon l'OIM. Rosine Mounezero nous en fait le point.
Selon les données de l'OIM publiées mardi, le pays compte 578 074 déplacés contre 362 551 début mars pour un total de plus de 10 millions d'habitants. Les chiffres que nous voyons aujourd'hui sont une conséquence directe d'années de violence qui ont atteint un nouveau pic en février avec leurs impacts humanitaires catastrophiques, a commenté Philippe Branchat, chef de l'organisation onusienne en Haïti. L'OIM a identifié près de 95 000 personnes qui ont quitté la capitale entre le 8 mars et 9 avril pour se rendre dans la province du Grand Sud, où les déplacés représentent désormais 10% de la population. Au niveau national, la majorité des quelques 600 000 déplacés, soit 80%, sont accueillis par des familles. L'OIM estime à près de 185 000 le nombre de déplacés, rien que dans la métropole de Port-au-Prince, soit une augmentation de 15% depuis début mars.
Ici, aux États-Unis, une vague de chaleur commence à frapper le nord-est et pourrait battre des records de température dans les prochains jours, selon les autorités. Ceci alors que des incendies frappent l'ouest du pays. Les précisions avec Mohamedou Oumfa.
Une vague de chaleur va s'installer et persister sur la région des Grands Lacs, la vallée de l'Ohio et dans le nord-est dans les prochains jours. Et à partir de mercredi et jeudi, de nombreux records sont possibles, a prévenu le NWS, le service météorologique américain. La durée particulièrement notable, le ciel sans nuages et les fortes températures nocturnes rendent cet épisode climatique bien plus dangereux que ce que suggèrent les 35 degrés Celsius annoncés, alerte le NWS. À Chicago, une telle canicule n'a pas été observée aussi tôt dans la saison depuis 1933, a souligné le climatologue en chef de l'Illinois. La ville a ouvert des espaces climatisés pour la population. En Californie, les pompiers se battent depuis samedi contre un important incendie. Et au Nouveau-Mexique, les autorités ont ordonné à quelques 7000 habitants de la petite ville de Ruidoso d'évacuer à cause des flammes.
Des gardes-côtes chinois sont montés à bord de bateaux de la marine philippine, a déclaré ce mercredi l'armée philippine après une collision en début de semaine en mer de Chine méridionale, au cours de laquelle un de ses marins a été blessé. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré ce mercredi au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un apprécier le soutien de la politique russe par la Corée du Nord, y compris sur le dossier ukrainien, à l'occasion d'un sommet bilatéral à Pyongyang, rapportent les agences de presse russes. Pékin critique une visite de parlementaires américains au Dalai Lama, menée par Michael McCaul, élu républicain du Congrès. Ce groupe de parlementaires, parmi lesquels l'ancienne présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a rencontré ce mercredi en Inde le Dalai Lama et le gouvernement tibétain en exil, s'attirant les critiques de Pékin. La gourou d'une secte de Singapour a été condamnée à 10 ans et demi de prison aujourd'hui pour avoir extorqué des fortunes à ses adeptes et puni ceux qui lui désobéissaient. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Passons maintenant à l'actualité économique avec John Lindon pour la Minute Éco.
Au Cameroun, l'entreprise belge Puratos, spécialisée dans la fourniture d'ingrédients de boulangerie, annonce l'installation d'une usine de transformation locale de cacao dans la ville de Bolova, dans le sud. L'unité, qui envisage démarrer avec une capacité de 5000 tonnes par an, sera spécialisée dans la production de la pâte de cacao, préalable à la fabrication du chocolat. Le gouvernement kényan a retiré mardi de son projet de budget 2024-2025 la plupart des nouvelles taxes qu'il voulait instaurer, notamment sur le pain et les véhicules particuliers, source de mécontentement croissant dans la population. Un mouvement de contestation de ces taxes avait été lancé ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Le Parlement doit débattre du texte remanié dès ce mercredi en vue d'un vote avant le 30 juin. Le concepteur des semi-conducteurs Nvidia est devenu mardi la première capitalisation mondiale, dépassant Apple et Microsoft, un symbole de la fièvre de l'intelligence artificielle générative qui agite les marchés. La valorisation du groupe de Santa Clara en Californie est montée jusqu'à 3338 milliards de dollars avec un titre en hausse de 3,45%.
À présent, intéressons-nous aux nouvelles sportives avec Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
Athlétisme pour commencer avec les préparatifs des JO Paris 2024.
Oui, vous le savez, les Africains, surtout ceux de l'Est du continent, sont très attendus dans les courses de fond et demi-fond lors des compétitions internationales. Et les Jeux Olympiques 2024 ne font pas l'exception. Mais nous allons parler surtout des Kenyans qui se signalent dans une discipline où ils n'excellent pas souvent, le 100 mètres. Cela vous rappelle sans doute un nom, Ferdinand Omanyala, qui a établi lors des sélections olympiques kenyanes la meilleure performance de l'année au 100 mètres, suscitant beaucoup d'espoir. Elle aussi s'est bien illustrée dans ce qu'elle sait faire. Faith Kipyegon a validé sa double qualification sur 1500 et 5000 mètres pour les Jeux de Paris. Suivez. Ambiance JO déjà dans ce stade de Nairobi lors des sélections olympiques kenyanes. Et les nombreux fans n'ont pas été déçus. Le sprinter Ferdinand Omanyala a établi la meilleure performance mondiale de l'année sur 100 mètres en 9 secondes 79. L'athlète de 28 ans s'affiche comme un des favoris pour le sacre olympique sur la ligne droite.
J'envoie un message aux autres athlètes pour leur dire « Je suis à mon meilleur niveau et j'ai atteint mon pic au bon moment. » Juste avant les Jeux olympiques, ils devraient se préparer à un coup d'éclat.
Et il n'a pas tort. Avec ses 9 secondes 79, Omanyala efface du même coup le chrono du Jamaïcain Oblique Seville, qui a couru le 100 mètres en 9 secondes 82 et domine aussi le champion du monde américain Noah Lyles, qui a fait 9 secondes 85 le 2 juin à Kingston. Chez les dames, la superstar kenyane du demi-fond Faith Kipyegon a réalisé une course parfaite pour boucler les 1500 mètres dans un chrono remarquable de 3 minutes 53 secondes 98 centièmes.
Aux Jeux Olympiques, nous allons faire de notre mieux en tant qu'équipe et voir ce que nous allons ramener à la maison.
L'été dernier à Budapest, la double championne olympique qui visera deux médailles d'or au JO est devenue la première athlète à réaliser un doublé aux mondiaux sur 1500 et 5000 mètres.
En football, début ce mercredi des matchs de la deuxième journée de l'Euro 2024.
Après une entame réussie face à la Croatie 3-0, l'Espagne joue contre l'Italie dans le choc du jour. Les Italiens avaient aussi gagné 2-1 devant l'Albanie lors de leur première sortie, bien avant la Slovénie et la Serbie s'affrontent. À suivre aussi Danemark-Angleterre. Hier, les derniers matchs de la première journée se sont disputés et la Turquie y est enfin arrivée. Pour la première fois de son histoire, elle a remporté son premier match dans un rendez-vous majeur en venant à bout d'une Géorgie sans complexe 3-1 à Dortmund. De son côté, le Portugal Portugal s'est imposé devant la République tchèque 2-1.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nanit Talani toujours en votre compagnie. Passons maintenant à nos dossiers du jour. La crise actuelle au Soudan représente une menace existentielle pour l'État, exacerbée par la violence croissante à El Fachir et dans les régions avoisinantes. Cette situation désastreuse est caractérisée par des conditions humanitaires critiques et des défis majeurs dont la protection des civils. Quels sont les principaux obstacles politiques et militaires qui entravent la résolution de ce conflit complexe et quelles stratégies pourraient être efficacement déployées pour atténuer cette spirale de violence et restaurer la stabilité dans la région? Eric Manirakiza s'est entretenu au téléphone avec Gérard Prunier, spécialiste de la Corne de l'Afrique.
Le problème, c'est la survie de l'État soudanais. Parce que la bataille d'El Fachir, qui va se terminer probablement d'ici peu de jours par la victoire des Métis, c'est-à-dire de celui qu'on appelle encore le rebelle, alors qu'en fait il partageait le gouvernement avec son ennemi, le général Bourhan, c'est un véritable dépiotage du pays. Et ça montre une chose, c'est l'influence des traditions coloniales. Parce que les gens disent toujours c'est une colonie britannique. Non, ça n'était pas une colonie britannique. On parlait à l'époque du Soudan anglo-égyptien. Et le mot égyptien lui-même était faux. On aurait mieux fait de dire anglo-ottoman. Parce que le Soudan, depuis 1821, et c'est un pays qui n'existait pas avant cette date, a été une colonie ottomane, c'est-à-dire de l'Empire turc. Et c'est ça qui est en train de partir en morceaux.
Quelles sont maintenant les raisons principales pour lesquelles la situation au Soudan continue de s'enliser, malgré les efforts de médiation et les résolutions internationales?
Oui, les efforts de médiation et de résolution internationale sont très minces. Il n'y a pas vraiment un gros souci. On fait semblant de s'en soucier du bout des lèvres, mais par exemple les conversations à Jeddah n'ont pas repris, elles étaient uniquement d'ailleurs sur le plan humanitaire et pas politique. En gros, il y a une négligence générale de la communauté internationale vis-à-vis du cas soudanais, qui est, Dieu merci pour la lucidité de M. Perriello, représente aujourd'hui au moins 150 000 morts, et pas 16 ou 20 000 comme le disent les Nations Unies.
Et quels sont les principaux obstacles politiques et militaires qui empêchent la résolution du conflit, en particulier en ce qui concerne les forces de soutien rapide et le gouvernement soudanais?
Chacun a ramassé quelques petits groupes de milices derrière lui, mais les deux acteurs sont effectivement ceux-là. Et on ne peut pas rentrer dans l'histoire du Soudan, mais ils représentent l'un et l'autre deux morceaux de la réalité du Soudan ottoman, c'est-à-dire du Soudan du XIXe siècle, que les Anglais n'ont jamais démonté. Quand ils sont revenus en 1898, ils ont repris toutes les structures de la colonisation ottomane. Après l'élimination des islamistes qui ont essayé d'introduire un tiers point entre ce qui sont les gens de l'Ouest et les gens du fleuve, ça a marché un certain temps et en 2019, ça s'est effondré.
Gérard Prunier, spécialiste de la Corne de l'Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Cameroun, dans la région de l'Est, de nombreux enfants centrafricains travaillent sur les sites miniers. Il s'agit d'enfants orphelins ou issus des familles ayant fui la guerre et qui ne résident pas dans les camps de réfugiés du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Certains enfants ont laissé leur vie sur ces sites miniers à la suite d'éboulements. Davantage avec notre correspondant Emmanuel Juntap.
Bien sûr, la mort, c'est pour nous tous. On doit partir. Mais ce n'est pas avec le Kassi. Le Kassi, c'est vraiment mauvais.
Jimmy Mama était un ressortissant centrafricain vivant à Baturi au Cameroun, à 400 km de Yaoundé. En en 2021, Youssouf, son neveu âgé de 16 ans, a trouvé la mort à la recherche de l'or au village Kambélé 3, dans la région de l'Est, voisine de la République centrafricaine.
Dans la nuit, vers 4 heures, les enfants qu'elle part marcher avec eux, et ils ont marché ensemble, c'est les enfants là qui sont venus. Mais coin la porte vers 3 heures du matin, il m'a dit que voici, la trou est tombée sur Youssouf. On est en train de creuser. Bon, maintenant, c'est difficile pour nous. On n'a pas trouvé la corde jusqu'à maintenant. On m'a arrivé et nous sommes allés creuser avec eux. Et vers 4 heures, 5 heures, on a trouvé la corde.
C'est sur le site minier d'une société chinoise dénommée Menchenu Wang Woping, laissé ce jour-là à ciel ouvert, que le jeune centrafricain Youssouf est décédé. Il y a 2 ans, un procès s'est ouvert contre cette société chinoise au tribunal de Batouri, à plus de 400 km de Yaoundé. Dieudonné Dissi, avocat de la victime.
Du point de vue juridique, il faudrait que les sociétés chinoises comprennent qu'il y a un code minier qui doit être respecté au Cameroun. Si l'administration des mines assumait pleinement ses responsabilités dans les chantiers miniers, on ne se retrouverait pas avec ce genre de situation. Heureusement que la gendarmerie nationale essaye de les supplier dans leur manquement. C'est un message fort et qui a envoyé à tous les autres expatriés, y compris les locaux qui s'associent avec ces expatriés, que leurs actions ne peuvent pas rester impunies.
Mais l'on retrouve encore de nombreux enfants centrafricains à la recherche effrénée de l'or sur les chantiers miniers dans la région de l'Est. L'un d'eux témoigne.
J'ai pu creuser la terre, j'ai trouvé cailloux, j'ai concassé, j'ai pas, il écrase. Je lave avec mercure. Quand j'ai trouvé ce que j'ai de même, une bichette, même 5 bichettes que j'ai mangé avec.
Jospin a, quant à lui, quitté la Centrafrique en 2015. Il avait alors 7 ans. Aujourd'hui, il dit gagner sa vie sur un site aurifère, au village Mali, dans la région de l'Est.
Ça veut dire ici au sanctuaire. Et bon, le loge, si je paye, à l'autre, je ne paye pas. Parce que le loge, ça dépend de charge. Quand tu as la charge, ça paye. Ça paye de même si c'est à 700 000 ou à 700 000. Quand tu n'as pas la charge, ça ne paye pas.
Les autorités camerounaises tente d'endiguer le phénomène du travail des enfants sur les sites miniers dans la région de l'Est. Diada Yakuba, préfet de la KDI, dont la localité de Batouri est le chef-lieu.
Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique a prescrit, n'est-ce pas, l'interdiction de ces enfants dans les sites miniers. J'ai demandé donc à toutes les autorités qui sont au niveau des annoncements d'appliquer cette mesure.
Ces 7 dernières années, les organisations de la société civile locale affirment qu'au moins 200 personnes sont mortes sur les sites aurifères dans la région de l'Est, parmi lesquelles des enfants de nationalité centrafricaine. Emmanuel Jumtap pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Gabon, comme partout sur le continent, l'économie informelle est presque au cœur de l'activité des grandes villes. Malgré de nombreuses opérations municipales contre l'occupation anarchique des espaces publics, vendeurs ambulants, démarcheurs de grandes enseignes ou les mototaxis restent maîtres du terrain à Libreville. Sur place, le reportage de notre correspondant Ismaël Obianzi.
Assis sur un banc devant l'arrêt bus du carrefour de Lyon-Bas à Libreville, Mansoura vend des jus de fruits. Dans sa quête du chiffre d'affaires, la Camerounaise de 38 ans n'est pas à l'abri des difficultés.
Les jus qui sont en manque, la hausse des prix des jus aussi. Sans oublier les contrôles et la mairie aussi. La mairie nous embête beaucoup, on a tendance à dire nous dérange, c'est de trop. Se retrouver dans un petit commerce à payer 1800 de tickets par jour, c'est énorme.
Des pousseurs de brouettes dans le grand marché situé juste à côté, aux démarcheurs de clients pour grands magasins à Libreville, le travail informel reste, selon certains, un moyen de survie. Steve, 25 ans, se sent bien dans la peau des débrouillards.
Moi, mes clients, je prends les clients, j'amène au magasin. Quand ça valide, j'ai un petit quota, un écoché un peu prenant. Je fais 300 par client, 250. Ça dépend du nombre de clients que tu aurais. Ça fait ta journée. Au lieu de voler, braquer.
La seule certitude des acteurs de l'économie informelle, c'est l'incertitude. À défaut de croiser les bras, beaucoup se sont créés des emplois qui n'existaient pas encore. C'est le cas de Yassine, devenu photographe ambulant.
En fin de mois, moyen, je peux sortir avec 70, 80. Si j'épargne vraiment, je n'ai pas de dépenses à faire. Je suis là, je m'amuse avec mes collègues, je me débrouille. Je rentre chez moi à n'importe quelle heure, en tout cas, je ne dérange personne.
Avec plus de 40% de jeunes chômeurs selon les estimations officielles, le marché gabonais de l'emploi connaît une crise sans précédent. Pour contourner la difficulté, Daniel et l'un de ses amis, étudiants en logistique et transport, vendent des essences de parfums dans les rues de Libreville.
Le but, c'est pour avoir un capital pour acheter le taxi. Ce business, au début, était difficile parce qu'on fait du porte-à-porte, on fait de maison en maison, on marche la difficulté et le soleil, mais le plus important, c'est d'avoir un petit revenu, quelque chose dans la poche, il ne faut pas rester à la maison. Bon, parmi les risques, il y a la mairie qui peut nous prendre déjà.
Quelques incompréhensions avec des clients malhonnêtes, j'imagine.
Bien sûr, deux fois, il y a d'autres qui peuvent vous payer sur place. Ils vous demandent de donner un bon. Après, tout le temps, il faut courir au téléphone pour l'appeler, pour appeler. Donc, c'est un peu compliqué, mais c'est le risque du métier. Hein.
Le secteur informel représente 41% du produit intérieur brut gabonais et emploie un grand nombre de personnes vivant au jour le jour d'une activité occasionnelle. Ismaël Obionzé, Libreville, pour VO Afrique.
Au Bénin, la lutte contre le travail des enfants piétine malgré l'existence d'un arsenal juridique sur la protection des enfants. Au lieu d'aller à l'école, certains enfants continuent d'être exploités sur les chantiers de construction, au marché et dans les ménages. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adondé.
La banalisation du phénomène du travail des enfants par certains adultes au Bénin est en totale contradiction avec le Code de l'enfant voté depuis 2015. Sœur Triana Borsani fait partie de la congrégation des sœurs salésiennes de Don Bosco. Depuis de nombreuses années, elle se bat pour protéger les enfants.
Les enfants qui travaillent au Bénin, il y en a trop. On ne se pose plus la question, mais cet enfant-là, pourquoi il est là? Il doit être à l'école.
En dehors des travaux familiaux traditionnels, les enfants sont employés comme domestiques pour faire du petit commerce ou sont envoyés sur des chantiers pour des travaux dangereux dans les domaines de l'agriculture, la maçonnerie, la soudure et autres. Jeanne Laroy se bat elle aussi depuis de nombreuses années pour donner un autre destin aux enfants placés dans les ménages.
Ces enfants passent sous nos yeux, vous et moi, et nous les regardons sans pouvoir rien faire. C'est vraiment dramatique. Moi, j'en appelle à la responsabilité politique parce que les ONG à elles seules ne peuvent rien faire.
Selon les résultats de l'enquête réalisée par l'INSTAD, le taux de prévalence nationale en matière du travail des enfants est passé de 52,5% en 2014 à 19,9% en 2022. Malgré cette avancée, le phénomène reste tenace en milieu ouvrier.
Pour apprendre chez nous, il faut avoir au moins 16 ans. La majorité sont allés à l'école, au moins le niveau 3e.
Dans notre organisation professionnelle, nous vulgarisons ça et nous encourageons les patrons d'ateliers, d'instituts, de ne pas prendre moins. Le minimum, c'est quand même l'acte de naissance. Et sur l'acte de naissance, on peut bien voir l'âge de l'individu.
Au sein de la population, tout le monde se dédouane ou ferme les yeux devant le phénomène.
Souvent, c'est le milieu ou l'encadrement des enfants qui fait que les enfants birfiquent souvent dans des domaines où c'est les parents même qui les poussent.
Et chez autres, les parents ont bien encadré leurs enfants, leur laisser le choix de faire ce qu'ils veulent.
Au Bénin, le travail des enfants constitue une violation des droits fondamentaux de l'homme. Esther Diossa est administratrice de l'action sociale.
L'enfant ne doit pas travailler avant l'âge de 14 ans minimum. Il faut nécessairement qu'il ait 14 ans et qu'il ait eu quand même à finir le primaire, c'est-à-dire faire de la maternelle jusqu'en classe de CM2. Il peut obtenir le CEP ou non, mais avant qu'un enfant ne travaille, il faut ces préalables-là. On ne doit pas le contraindre à faire des activités contre sa volonté, par exemple l'obliger à aller s'asseoir dans une boutique ou bien aller vendre dans les marchés ou carrément être utilisé à des fins de films pornographiques et tout ce qui va avec.
Le Bénin ambitionne d'atteindre l'objectif de développement durable en matière de travail des enfants et devra prendre des mesures immédiates pour éliminer les pires formes de travail des enfants d'ici 2025. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition du Monde aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir accueillis chez vous et de rester fidèles au programme de VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal au micro. Nanit Talani à la réalisation, Firmin Max Kouyaouida. Ainsi va le Monde aujourd'hui. L'info continue sur voaafrique.com ainsi que sur nos pages Facebook, YouTube et Instagram. Je vous souhaite une excellente journée en compagnie des programmes de VOA Afrique.